Selon les Nations Unies, les peuples autochtones comptent plus de 370 millions de personnes sur la Terre, réparties donc dans le monde entier. Ces peuples, souvent méconnus par nos sociétés, coexistent depuis des siècles avec la nature et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Mais les menaces se multiplient pour ces femmes et ces hommes. Elles viennent principalement des méga-projets auxquels se livrent les industries minières ou pétrolières, qui visent à exploiter les ressources naturelles, projets qui sont à l'origine de dommages irréparables sur l'environnement et les ressources naturelles dont sont tributaires ces peuples pour leur survie. Demain dimanche aura lieu à Lille Cité Philo, c'est au Théâtre du Nord avec la venue de membres de communautés du Brésil ou de Guyane. Je reçois deux d'entre eux dans un instant avec également l'anthropologue Irène Bélier pour nous parler donc des pressions exercées sur les peuples autochtones et vous pouvez bien sûr nous rejoindre dès maintenant avec vos questions 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans quelques minutes.
Oui, aujourd'hui je m'intéresse au sort réservé aux milliers de livres qu'on reçoit chaque année à Radio France.
Caroline Tourbe, comme tous les vendredis, nous retrouvons votre chronique détox. Quel en sera le thème tout à l'heure ?
Nous allons parler du séisme qui s'est déroulé le 11 novembre dernier et nous poser deux questions. Son origine, qu'est-ce qu'on en sait ? Et puis, quel est le risque réel pour les centrales nucléaires ?
Vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui un jeu collaboratif pour observer les oiseaux. Et puis enfin, notre invité découverte est l'écotoxicologue Jean-François Giglione qui va nous parler d'une étude sur les microplastiques découverts dans des larves de poissons à Hawaï. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Céline Hila avec à la technique Paul Percheron et Alexandre Chenet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. France Inter.
Et je salue mes invités, l'anthropologue Irène Bélier, accompagnée de Caddy Eleonore Johannes, qui vient de Guyane, et Guilherme Juruna, originaire du Brésil. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue. Irène Bélier, vous travaillez au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales à l'EHESS, et vous êtes vice-présidente du groupe international de travail pour les peuples autochtones. Caddy Eleonore Johannes, vous venez donc de Guyane française, et vous êtes présidente du collectif des Premières Nations de Guyane, également porte-parole de Hors de Question, Hors, ça s'écrit OR évidemment, qui s'oppose à la méga-industrie minière en Guyane. Et puis Guilherme Juruna, vous êtes le chef d'un village de la tribu Xicrine qui se trouve en Amazonie brésilienne. Et je salue Anna Zema qui assure la traduction de notre entretien. Irène Bélier, qu'est-ce qui va se passer donc à Lille à partir de demain à Cité Philo? Vous partez là-bas donc pour parler des peuples autochtones?
Voilà, on organise un événement à l'intérieur de ce festival de la philosophie et de la pensée autour de cette problématique de l'or qui était dans la liaison de l'île 3000 et on a souhaité en effet poser ce problème de l'or, de la conquête de l'or, de le renouveau de la conquête de l'or et de la manière dont cela va s'exercer sur les peuples autochtones puisqu'ils ont des territoires encore riches de ce filon qui depuis 500 ans, 600 ans, 1000 ans attire les peuples. Et donc on va organiser deux événements samedi après-midi et dimanche après-midi autour de ce thème qui s'appelle l'Eldorado ou l'Enfer.
Ouais. Les peuples autochtones, donc je le disais, 370 millions de personnes réparties partout dans le monde.
Voilà, alors on peut même estimer qu'il y en a un petit peu plus parce que c'est un chiffre qui a été fixé par les Nations Unies il y a déjà même 25 ans ou 30 ans et donc on n'a pas de statistiques, de recensement exhaustif. Donc moi je dirais qu'on est plus près de, on est entre 400 et 500 millions dans le monde. Ce sont des petites sociétés qui ont été marginalisées par la construction des États, qui sont réparties dans tous les continents du monde et donc aujourd'hui on sait qu'on a au moins 90 pays qui connaissent de l'existence de peuples autochtones.
Sur tous les continents ?
Tous les continents, ouais. Sauf l'Antarctique.
Oui, évidemment. Qu'est-ce qui définit les peuples autochtones exactement ?
C'est le fait d'avoir été, disons, colonisés par des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui peuvent être des colons européens ou des colons des groupes plus puissants qui les ont relégués à l'intérieur de leurs états, qui sont déterminés à... qui parlent, disons, qui se considèrent comme distincts, parce qu'ils parlent des langues différentes, ils ont des modes d'existence différentes, ils ont des institutions différentes, et ils sont déterminés à préserver ces institutions, ces langues et ces différences. Donc c'est ce qui constitue la diversité culturelle aussi. Donc les peuples autochtones sont créés finalement par la construction des États modernes qui ne les ont pas incorporés dans une société inclusive. Mmh. Et donc ils ont souffert de marginalisation, de discrimination et surtout de spoliation territoriale.
Leurs droits sont reconnus par les Nations Unies depuis 2007. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça signifie en quelques mots ?
Le point très important, c'est la reconnaissance du droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment le droit à l'autodétermination qui leur reconnaît la personnalité juridique. C'est-à-dire qu'on ne les considère plus comme des collections d'individus qu'on a pu appeler barbares, sauvages et dénigrés de multiples façons par des noms qui sont tout à fait différents de ceux qu'ils se donnent comme autodéfinition. Mmh. Et du coup... à partir du moment où on leur reconnaît cette personnalité juridique, on leur reconnaît aussi le droit à avoir la plénitude des droits humains, d'une part qui sont les droits de la personne, mais également des droits collectifs. Des droits collectifs sur les territoires, ils ont droit à un territoire sur lequel ils ont une relation particulière et spirituelle, par exemple, et matérielle.
À ce sujet, on a beaucoup à apprendre dans notre lien à la nature de ces peuples-là, qui eux vivent vraiment au contact direct de la nature.
Absolument, ce sont des peuples qui savent lire la nature, qui savent vivre avec la nature, qui connaissent les poissons, et notre ami Juruna et sa compagne, par exemple, tout à l'heure, sont allés à la cafétéria, et ils ont rencontré l'aquarium,
oui.
Et ils ont adoré les poissons, parce que de la région d'où ils viennent, ils extraient des poissons d'ornement.
Ouais.
Et donc, tout d'un coup, ils ont vu ces poissons dans cet espace, et en fait, pour eux, les poissons, c'est des copains, quoi. C'est vraiment, alors que nous, on les voit comme des éléments de distraction.
Cady Eleanor Johannes, donc vous êtes guyanaise, et le problème de l'orpaillage et de l'or en Guyane touche directement votre communauté?
Absolument, parce que ces multinationales s'installent sur les territoires sacrés des peuples autochtones de Guyane.
Mmh. Ça fait longtemps que c'est le cas, qu'il faut lutter justement contre l'arrivée de ces grands groupes?
Ça fait pas très longtemps, c'est-à-dire que la Guyane est toujours, la population de Guyane a toujours travaillé de l'or, mais artisanal.
Oui.
Mais là, depuis quelque temps, il y a des multinationales qui arrivent en masse dans le projet Montagne d'Or. Vous devez être au courant.
Absolument. Alors, racontez-nous quel est exactement ce projet, qui est un consortium russo-canadien et qui donc se trouve entre deux réserves biologiques et domaniales et sur des territoires sacrés très anciens, selon d'ailleurs les fouilles archéologiques. Avec votre collectif, de quelle façon est-ce que vous résistez justement contre ce projet de la montagne d'or en Guyane française?
Mais nous résistons en interpellant les médias, d'abord les médias locaux, puis les médias nationaux, puis internationaux.
Mmh.
Et nous sommes près de 30 associations guyanaises, plus les associations nationales et internationales qui nous ont rejoints pour nous aider dans ce combat. C'est-à-dire que nous avons le soutien du monde, je dirais ça, du monde entier, contre ce projet Montagne d'Or. Parce que si une fois que ce projet est installé, si c'est ouvert, c'est la porte ouverte à tous les autres mines industrielles.
Mmh.
Et il y en a beaucoup qui attendent le feu vert de l'exploitation de la montagne d'or. Bien que je dirais que le projet a été... Le président Macron a dit que ce projet ne pouvait se faire en l'état.
Mmh.
Et les ministres l'ont répété à nouveau. Et le président de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, à l'ONU, a répété la même chose. Mais dernièrement, ce qui est très étonnant, c'est que ce projet Montagne d'Or a été mis à l'ordre du jour de la Commission des Mines, avec l'accord favorable de la DEAL.
Oui.
Alors je me pose la question de savoir qui commande. Est-ce que c'est le gouvernement, ses ministres, ou ce sont les services de l'État?
Ouais, donc il faut maintenir la pression, évidemment, pour vous, et c'est une mobilisation de tous les instants pour freiner, stopper ce projet?
Bien sûr, nous sommes sur tous les fronts.
Ouais.
Nous interpellons les médias, nous interpellons les autorités locales, et surtout les populations autochtones, c'est-à-dire les associations autochtones, se mettent ensemble pour lutter contre ce projet.
Mmh.
Parce que une fois que ce projet sera fait, c'est-à-dire que, pensez qu'il y a déjà 360 000 hectares de forêts guyanaises qui ont été attribués aux miniers.
Mmh.
C'est énorme. Et chaque année, enfin chaque mois je dirais, il y a une commission des mines où il y a 3 ou 4 projets qui sont à l'ordre du jour.
Ouais, et ça sur vos territoires?
Sur le territoire de la Guyane.
Ouais. Alors justement, il y a le problème, outre l'implantation justement de ces industries, c'est aussi celui de l'environnement et de la pollution que ça génère et qui touche directement les communautés, j'imagine.
Bien sûr, parce que si on prend le projet Montagne d'Or, vous savez que par jour, c'est 10 tonnes d'explosifs. Par jour.
Mm-hmm.
10 tonnes de cyanure. Et ça se passe dans un pays humide. Et quand il pleut, vous savez que ça se lessive.
Mmh.
Et les cours d'eau sont pollués. Et il ne faut pas dire que ça va rester cantonné au moment de la montagne d'or, dans la région de la montagne d'or. Parce que si on regarde la carte de la Guyane, c'est une multitude de ruisseaux, de fleuves qui se connectent. Donc, et ça descend vers la mer, vers
ouais.
l'Atlantique. Donc, ce n'est pas l'intérieur de la Guyane qui sera contaminée, c'est toute la Guyane.
La contamination des rivières, évidemment, les ressources comme les poissons que vous consommez. Hein.
Exactement. Et ça, je pourrais dire, je vais retourner. Est-ce qu'on peut parler de l'orpaillage illégal ?
Bien sûr.
Parce que,
avec le problème du mercure, justement.
Avec le problème du mercure utilisé par les orpailleurs illégaux qui s'installent sur les deux frontières, c'est-à-dire Suriname-Guyane et Guyane-Brésil, qui utilisent toujours le mercure. Bien que la France a interdit le mercure et le Suriname aussi, mais ça n'empêche pas les orpailleurs illégaux de s'installer, de polluer ces rivières. Et ça touche énormément les populations de l'intérieur qui consomment le poisson et qui ne peuvent plus consommer du poisson, donc sont obligés de manger ce qui vient du littoral, c'est-à-dire je vais dire, du poulet congelé, des boîtes de conserve. C'est catastrophique.
Qu'a dit Eleanor, on est évidemment à des milliers de kilomètres de vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement, nous, ici en métropole, pour vous aider dans ce combat ? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Est-ce que vous êtes aussi en attente d'un signal envoyé de chez nous ?
Bien sûr, moi je voudrais que le gouvernement français, que l'on dit très fort, on donne les moyens nécessaires militairement pour lutter contre les orpailleurs illégaux qui s'installent sur la Guyane. Bien sûr qu'ils font, il y a l'armée qui est installée là-bas, qui lutte contre les orpailleurs illégaux, mais ce n'est pas suffisant. Il en faut davantage.
Irène Bellier, il faut maintenir la pression ?
Je pense qu'il faut maintenir la pression et que notamment on assiste aujourd'hui à une nouvelle mise en exploitation de la Guyane et je pense qu'on doit être très alerté sur cela. Donc non seulement les mines, mais également considérer que la forêt doit se préserver. C'est la seule grande forêt qu'on a en Europe.
Et c'est le territoire français. Il ne faut pas l'oublier ça. Hein.
Et donc il faut considérer que là on a un hotspot de la biodiversité, qu'on a des peuples autochtones que l'on connaît très très mal en Guyane, mais aussi des Bushinengués et d'autres populations. Et il faut maintenir la pression, il faut résister.
Allez,
recycler l'or, parce que l'or rapporte plus en étant recyclé qu'en étant recherché, parce qu'on trouve quelques grammes d'or par tonne de roche broyée.
On donnera l'autre exemple tout à l'heure avec Aguilar Desjourouna de ce qui se passe aussi dans la forêt amazonienne du Brésil. Vous êtes nos invités et évidemment les auditeurs peuvent dialoguer avec vous au standard de France Inter. A tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille, on passe au vert également avec vous et Écologie à Radio France comme tous les vendredis. Outre les poissons dans les aquariums qui viennent de loin, eh bien nous avons aussi des livres qui peuplent nos bureaux.
Oui, on en reçoit énormément chaque semaine, rien que chez nous à la Terre au Carré. Mathieu, vous diriez à peu près combien ?
Allez, on va dire une trentaine au moins.
Une trentaine par semaine, minimum, des dizaines de livres. Donc chaque semaine dans toutes les émissions à France Inter et dans toutes les autres chaînes de Radio France. Nos murs, nos tables, nos moquettes sont envahies, constellées de lectures plus ou moins intéressante, il faut le dire, et qu'on ne garde pas toutes dans nos étagères déjà bien remplies, il faut le dire aussi. Alors, moi la première, je ne me suis jamais demandé ce que devenaient ces ouvrages, à part les voir échouer parfois dans les couloirs à la recherche d'un adoptant bienveillant, jusqu'à la semaine dernière. Mais qui va là ? Un grand monsieur débarque dans le bureau, équipé de bacs bleus.
Bah, j'ai mon chariot, je me balade dans les bureaux avec mon chariot, mes bacs, et là je suis à mon deuxième aller-retour là déjà.
Éric Leblon est l'un des fondateurs de l'association Sonvons les livres. Il fait le tour de la maison tous les mois pour en récupérer des kilos.
On en fait plusieurs choses. On redonne en fait aux prisons. Alors il y a certaines prisons, ils interdisent tout ce qui est politique. Alors il y a beaucoup de romans, on met de façon systématiquement tout ce qui est roman, on met de côté. Mais là ils travaillaient sur les sujets d'anthropologie et d'ethnologie. Et donc du coup, on mettait de côté sur ces sujets-là.
Des dons aussi à l'Afrique, mais du don ciblé. Il ne s'agit pas de se débarrasser.
Ce qui a été reproché aux associations à juste titre, c'est que tout ce qu'on voulait plus, on l'envoyait en Afrique. Et donc là, on répond à des demandes d'associations en Afrique qui veulent faire des bibliothèques. Donc soit ils nous demandent des fonds plutôt jeunesse, des fonds plutôt scientifiques. Et donc on sélectionne vraiment ce qu'eux veulent.
Alors il y a un avantage aussi avec Radio France, écoutez bien.
Ce qui est quand même extrêmement intéressant de travailler avec les rédactions, c'est qu'on est que sur des livres neufs. Ça peut paraître bête, mais ce qu'on donne en milieu carcéral ou en Afrique, c'est pas de leur envoyer des livres trop usagés ou qui sont déjà en fin de vie.
Alors, microbiodiversité, hop, les éoliennes, là.
Celui-là, il est en double, même. On retire tout ce qui est dédicace.
Ah d'accord.
Donc on retirera la première page sera retirée.
Eh oui Mathieu, personne ne lira les mots doux qu'on vous a écrits au début manger ses déchets ou de l'histoire de la mauvaise herbe sur les toits de Nantes entre 92 et 2004. Titre ridicule et évidemment inventé. Mmh. Les livres sont également envoyés en ressourcerie ou vendus dans des foires, des braderies au prix du marché d'occasion. Vendus également sur Internet.
C'est revendu sur des plateformes en ligne essentiellement, sur la Fnac, sur Price Minister, sur Amazon aussi.
Les vendez sur Amazon ? Ah bon ?
Eh oui, Lucie Sarfati, qui prépare les émissions avec nous, ouais, n'en a pas cru ses oreilles.
On est pas trop Amazon, quoi. Nous, tout de suite, en fait, on est dans une émission écologie, on entend Amazon, ça nous fait un peu bondir, quoi.
Mais Éric Leblond donne des explications.
Quand on est vendeur sur Fnac ou Amazon, c'est on vend notre nom propre. C'est pas, on revend pas à Amazon qui revalorise derrière.
Ça, c'est juste une plateforme, en
c'est
fait.
Une plateforme, c'est une marketplace.
D'accord.
Sinon, qu'est-ce qu'on en fait? On les met à la poubelle.
Mais l'argent que vous récoltez, il sert à quoi? L'argent,
ben, on a une salariée et demie. L'argent sert à payer la salariée et à payer les expéditions. Ouais. C'est pour le fonctionnement. On travaille sans subvention, sans rien, quoi. Les fondateurs et dirigeants, ils gagnent rien non plus, quoi. Il y a du bénévolat, quoi.
Voilà, donc même les éditeurs se rassurent, hein, ce n'est pas pour se faire des bénéfices, mais les plateformes de vente en ligne gagnent pas de l'argent sur les ventes réalisées, mais quand même, hein, grâce aux pubs qui s'affichent sur les pages de ces marketplaces.
C'est un système qu'on entretient quand même, mine de
rien. Un petit peu, mais c'est quand même c'est la preuve que le cercle donc 100% vertueux de l'économie circulaire est un peu difficile à atteindre, mais ce que je dis, c'est qu'on essaye, et c'est déjà pas mal, en l'occurrence avec Sauvons les livres.
Voilà, Camille passe au vert, et vous pouvez bien sûr réécouter cette chronique sur franceinter.fr. Dans un instant, nous revenons à la question des peuples autochtones avec nos invités qui viennent de Guyane française et du Brésil. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions dès maintenant au standard de l'émission. Et c'était Biche à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
La question des peuples autochtones cet après-midi dans l'émission avec nos invités et Irène Bélier, anthropologue. Vous connaissiez déjà nos invités avant de faire cette émission et de partir donc à l'île demain?
Eh bien, je connaissais surtout la problématique du Xingu et la problématique de Bellosund que Gilliard et Juruna va nous développer tout à l'heure et je ne le connaissais pas. J'en ai fait la connaissance maintenant et parce que c'est un point très important. Donc lui, les Juruna, il faut se placer au Brésil.
Qu'est-ce que ça veut dire être Juruna?
Être Juruna, c'est être dans une histoire particulière de relations avec d'autres peuples autochtones et donc dans la région du Xingu. Je peux juste les énumérer comme ça parce que c'est important d'apprendre les noms des peuples et de parler simplement des Indiens et de les entendre. Donc dans la région où il y a les Kayapo qu'on connaît beaucoup avec Raoni, mais il y a aussi les Arawete, les Paracana, les Chipaya, les Kuriwana, les Chikrin, les Asurini, les Arara et les Juruna, un petit peuple donc de 300 personnes dans la grande boucle du Xingu. Alors il faut se mettre, on est sous l'Amazone, hein, on a l'Amazone, ce grand fleuve, etc. Après on a le Xingu qui est un très grand fleuve, on est en dessous de cette région-là, dans l'état du Pará. Et eux, ils se situent dans cet endroit-là de la grande boucle qui a été affectée par un grand barrage. Le plus grand barrage du monde, c'est le barrage de Belo Monte, dont on a parlé déjà il y a très longtemps. Et maintenant, c'est cette construction donc de cette mine d'or qui menace et qui est une mine canadienne et qui vise à faire la plus grande mine à ciel ouvert du Brésil. Et eux, ils veulent pas parce qu'ils veulent protéger leur terre. Ils veulent être consultés. Et c'est très important que les peuples autochtones aujourd'hui soient consultés. Ça fait partie des droits des peuples autochtones.
Alors, Gilliardet, on va vous entendre, hein, puisque vous nous faites l'amitié de venir nous en parler à ce micro. Vous vous battez donc effectivement contre ce projet minier d'exploitation d'or, puisqu'on est encore sur le problème de l'or, donc le Bellosund, qui serait, dit-on, la plus grande mine d'or à ciel ouvert, construite donc sur votre territoire. Pour l'instant, où en êtes-vous? Ce projet est suspendu? Vous êtes parvenu justement à l'arrêter pour le moment?
Il demande comment que vous avez réussi à faire ce projet pour maintenant.
Gilliardet.
Boa tarde. Me chamo Gilliard
Juruna. Je m'appelle Gilliardet Juruna. J'habite dans la terre autochtone Paquissamba. Dans la Volta Grande du Xingu, où se trouvent les deux plus grands projets de développement du Brésil, où se trouve le barrage de Belo Monte et maintenant le projet minier de Bellosund. Nous avons réussi à suspendre le projet jusqu'à maintenant et nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été écoutés. Le projet dit que les gens qui seront que nous ne serions pas impactés parce que nous sommes à plus de 10 km de la mine et nous sommes partis à Brasilia. On a été voir des juges qui jugeaient l'affaire et nous avons questionné comment pouvaient-ils donner un permis d'installation dans une région qui a déjà été fortement impactée par le barrage de Belo Monte. Ça impacte la rivière, la vie de la rivière. On ne sait pas comment sera notre survivance dans cette région. Parce que la rivière maintenant est contrôlée comme s'il s'agissait, comme si c'était un robinet. Alors on a demandé comment ils pouvaient permettre l'installation d'un projet minier comme ça dans notre région déjà tellement impactée par Belo Monte.
Onde a gente está sendo impactado muito com uma questão
aujourd'hui, de nous mortandade de peixe que morreu na nossa região, que está fazendo falta para a nossa alimentação. Il y a une mortalité de poissons très grande. On a perdu des points de pêche. L'eau est contaminée à cause du barrage.
Então, isso é impacto muito grande para a gente, porque a gente, como Juruna,
parce que nous, le peuple Juruna, les Yuja, ça veut dire que nous sommes les seigneurs de la rivière. Et si ce projet minier se met en place, cela va finir avec notre vie.
Irène Bélier le disait tout à l'heure, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est une consultation pour pouvoir justement faire en sorte qu'on entende votre voix et qu'elle pèse dans les décisions.
O que a gente está pedindo
ce
é que...
Ce qu'on demande aujourd'hui...
E a gente fizemos um protocolo para
ser ouvido.
Nós avons
fait un protocole de consultation
et nous demandons
qu'il soit respecté.
O nosso protocolo seja
il faut que notre
que
protocole soit
nós,
respecté et que le gouvernement et la FUNAI nous écoutent.
No
le protocole, c'est notre loi. Nous avons mis en place, nous avons dit comment nous voulons être écoutés. Et ce n'est pas la FUNAI et ce n'est pas le gouvernement qui doivent répondre pour nous. C'est nous qui allons parler.
Est-ce que justement depuis l'arrivée de Bolsonaro à la tête du Brésil, les choses ont encore changé pour la vie de vos communautés? Est-ce que vous le sentez d'une façon très forte?
Sim, a gente está muito preocupado com a questão
oui,
do
avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, nous avons écouté ce qu'ils disent à la télévision et il annonce qu'il va libérer la minération dans les terres autochtones. Et nous sommes contre. Et si cela se passe, nous allons lutter. Nous n'allons pas permettre que la minération vienne chez nous. Nous dépendons de notre habitat, de la forêt, de la rivière et nous n'allons pas permettre la minération en nos terres.
Il y a beaucoup de pression, évidemment, de corruption. Vous avez même des chefs de communautés qui ont été assassinés récemment. Vous craignez aussi pour votre vie, tout simplement?
Sim, a gente tem medo,
oui,
né, porque
nous
hoje
avons
a gente
peur.
Sabe que tem muita
nous
corrupção,
savons qu'il y a beaucoup de corruption, de cooptation pour accepter ces projets.
Um recurso, né,
oui,
poder
des leaders qui reçoivent de l'argent et nous sommes contre.
Ameaça, né,
nous nous sentons menacés.
Tem aqueles que são a favor,
il y a
contre,
des autochtones
né,
qui sont à la faveur, il y a des autochtones qui sont contre le
né,
projet.
E a gente se sente ameaçado
nous
por essas
nous
pessoas
sentons menacés, pas seulement
mas até agora não aconteceu
par le gouvernement, mais nous nous sentons menacés par les gens qui sont pour le projet.
Guilherdé, on le disait tout à l'heure, vous êtes 300 dans votre communauté, vous êtes venu d'ailleurs avec votre femme aujourd'hui dans ce studio. Est-ce que malgré tout, 300 face à la puissance d'une industrie comme celle de l'or par exemple, est-ce que quand même vous vous sentez fort? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez parvenir à combattre?
A gente está
oui,
forte
oui,
lutar
nous sommes
esse
forts.
Na nossa
nous sommes préparés
né,
pour lutter contre ce projet.
Paquissamba, são
nous sommes quatre communautés dans la terre
pessoas,
autochtone Paquissamba. Nous sommes autour de 300
completo,
personnes,
né, tá
mais
eles.
Nous
se
sommes prêts pour lutter.
Parentes,
on peut appeler nos parents, les voisins autochtones, les Kayapó, les Surini, les Chikri, tout le monde qui habite au Xingu, nous sommes prêts pour lutter pour notre protection. Il faut appeler les autochtones, c'est comme si c'était une vraie armée. Si on appelle les voisins, ils sont prêts à lutter avec nous.
Irène Bélier, qui les représente aujourd'hui finalement, ces peuples autochtones? Il y a des instances officielles qui sont chargées justement de les protéger d'une certaine manière.
Au niveau du Brésil, oui. Il y a une institution qui a été créée autrefois, le service de protection de l'Indien, qui est devenu ensuite la FUNAI. Et cette institution a été à la fois très critiquée et en même temps a servi un certain nombre de projets positifs et en protection. Et cette institution a vu ses moyens totalement coupés par Bolsonaro et le personnel remplacé de manière à effectivement lui interdire le rayon de protection qu'elle déployait autour des peuples autochtones. Et aujourd'hui, il y a une véritable attaque de Bolsonaro sur ces peuples autochtones à travers justement la suspension des protections, de l'octroi des terres et la décision de faire de la mine, par exemple, en terre autochtone. Donc on avait déjà le problème d'autoriser les incendies, faire du soja, faire du bœuf, maintenant c'est faire de la mine. Voilà, donc,
C'est important qu'on en parle hein, ici aussi en métropole. Il ne faut pas oublier ce qui se passe là-bas, hein, parce qu'on a beau être éloigné par des milliers de kilomètres, on est concerné, nous, directement et particulièrement aujourd'hui dans le cadre de cette crise écologique que nous vivons.
Hein. À la fois dans la crise écologique et du fait de la mondialisation, ce sont des entreprises qui ont des parties en partie liées avec les entreprises françaises, par exemple. Et donc le marché concerne le marché européen aussi bien. Le marché de l'or, par exemple, concerne aussi bien les Européens. Donc on est absolument concerné.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus du Brésil, de Guyane, pour nous en parler. Donc vous filez à Lille, au Théâtre du Nord, pour ce rendez-vous donc de Cité Philo, l'Eldorado ou l'Enfer. Hein. Ce sera demain, on pourra vous croiser à 16h pour un premier rendez-vous autour de ce thème de l'extraction de l'or. Et puis dimanche à 19h, sur le droit justement des peuples autochtones. Merci à Anna Zema pour cette traduction. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Caroline Tourpe qui reviendra sur le séisme de Montélimar.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, ça va vous plaire Camille, vos solutions pour la planète avec un jeu collaboratif pour observer les oiseaux. Et
chouette.
Puis enfin notre invité découverte est l'écotoxicologue Jean-François Guiglione qui va nous parler d'une étude, ce sera moins drôle, hein, sur les microplastiques découverts dans les larves de poissons à Hawaï. Mais pour le moment c'est l'heure de votre chronique Détox Caroline Tourbe avec des questions aujourd'hui autour du séisme près de Montélimar.
Oui, alors c'était le 11 novembre dernier, c'était un séisme d'une magnitude de 5 qui a secoué le village du Teil à quelques kilomètres de Montélimar. Tremblement de terre qui va provoquer des blessés et des dégâts importants.
La toiture d'une des églises du Teil s'est effondrée au milieu de la nef. Il y a des fissures sur la mairie et sur d'autres bâtiments publics, ainsi que des plafonds qui menacent de tomber. Et environ 200 maisons de particuliers sont aussi touchées.
Alors, moins d'une semaine après l'événement, deux grandes questions se posent encore. La première porte sur l'origine de ce séisme assez exceptionnel pour la France métropolitaine. Et la deuxième s'intéresse à la sécurité des centrales nucléaires situées à proximité.
Alors, on aborde ces deux questions. Et pour répondre à la première, une équipe de scientifiques est toujours sur le terrain d'ailleurs.
Oui, ce sont des experts des laboratoires GéoAzur, de l'IRSN, de l'ISTER ou de Géosciences Montpellier qui rassemblent toutes les mesures nécessaires pour comprendre le déroulé du séisme. Or, ces derniers jours, en me connectant tout simplement sur le site de la cellule post-sismique, j'ai lu que la question se posait d'un lien potentiel entre le déclenchement du séisme et l'existence d'une carrière située tout près du village.
Alors évidemment, à ce stade, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail parmi d'autres.
Oui, oui, mais elle est étonnante. Alors j'ai tenté de joindre les membres de l'équipe sur place, sans succès. J'ai donc discuté de cette hypothèse avec Jean-Robert Grasso, membre du laboratoire ISTER à l'université Grenoble-Alpes. C'est avec lui que nous avions échangé la semaine dernière sur les séismes induits par l'homme.
Alors dans le cas du séisme près de Montélimar, donc si les chercheurs explorent la piste de la carrière, c'est qu'ils ont relevé quand même certaines particularités, c'est ça ?
Oui, la première, c'est sa très faible profondeur, entre 1 et 2 km dans la croûte terrestre. Or, comme le souligne Jean-Robert Grasso, c'est très étonnant. Dans un pays comme la France, en effet, en métropole, les séismes se situent généralement entre 5 et 20 km de profondeur. Et précise le chercheur, une faible profondeur est une particularité que l'on retrouve lors des séismes induits par l'activité humaine.
Alors apparemment, une autre particularité qui intrigue les sismologues, c'est le très faible nombre de répliques.
Oui, en effet, en temps normal, après un choc principal d'une magnitude de 5, on s'attend à avoir beaucoup plus de répliques. Mais en réalité, si la piste des carrières est évoquée, parmi d'autres pistes, hein, je le rappelle, c'est aussi parce que la situation en rappelle d'autres dans le monde. Comme le souligne Jean-Robert Grasso, dans la littérature scientifique, on trouve plusieurs cas bien documentés qui font le lien entre tremblements de terre, exploitation d'une carrière, gisement de pétrole ou mine à ciel ouvert. Alors est-ce qu'un tel scénario s'est produit au Teil ? L'hypothèse est sur la table, mais rien n'est encore prouvé et il faudra, c'est certain, de longs mois d'analyse avant de pouvoir peut-être trancher.
Mais la sur deuxième cette question, question ouais, voilà. C'est quoi la deuxième question?
La deuxième question, c'est ce qu'on disait, c'était est-ce que le séisme du 11 novembre a posé des problèmes de sécurité sur la centrale nucléaire? Alors, la centrale du Cruas est toujours à l'arrêt. Pour vérification, on écoute Rémi Cato de l'autorité de sûreté nucléaire.
Les réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas sont actuellement à l'arrêt pour une durée indéterminée. Une alarme a été déclenchée sur le site.
Ça ne veut pas dire que l'installation a été fragilisée, ça veut dire que le séisme était suffisamment important pour qu'on aille voir ce qui s'est passé sur l'installation.
Alors, à la suite du séisme, le réseau Sortir du nucléaire a lancé une alerte qui dit que la centrale de Cruas a été construite pour résister à un séisme de sécurité majoré de 5,2, alors que le séisme du 11 novembre aurait atteint une magnitude de 5,4, donc au-dessus.
Sauf que le calcul n'est pas bon.
Non. Pour comprendre, il faut savoir que le séisme majoré de sécurité est obtenu en ajoutant 0,5 à la magnitude du séisme maximum historiquement vraisemblable, en gros, le plus gros tremblement enregistré dans la région. ans. Pour les centrales de Cruas et de Tricastin, sa voisine, le séisme en question date de 1873 et il est d'une magnitude de 4,7. Donc si on ajoute 0,5, on obtient 5,2, pardon. Tout ce calcul se fait en magnitude des ondes de surface.
Mais ce n'est pas possible de le comparer avec le chiffre de 5,4 avancé par le réseau sortir du nucléaire. Hein,
non,
c'est ça,
car ce dernier ne repose pas sur le même mode de calcul. Il correspond à la magnitude locale et pas à la magnitude des ondes de surface. Alors c'est assez technique, mais si on reprend le calcul avec les mêmes échelles, le séisme du 11 novembre est en fait d'une magnitude des ondes de surface de 4,5, donc en dessous du séisme majoré de référence de 5,2 pour les centrales, soit même 5 fois moins d'énergie.
Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Alors les deux experts de l'IRSN avec lesquels j'ai discuté sont évidemment vigilants, mais sont aussi rassurants. Pour eux, le séisme majoré de référence reste donc le bon. Avant tout redémarrage, les inspections de la centrale de Cruas diront si le matériel a été endommagé. Mais néanmoins, les deux experts soulignent qu'il faudra évidemment bien intégrer désormais ce dernier épisode sismique dans les prochaines réévaluations sur la sécurité des centrales. Bref, c'est à suivre.
Merci Caroline Tourbe et on peut bien sûr écouter votre chronique détox sur la page de la Terre au Carré. Guy Van Til, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint dans ce studio car la semaine prochaine, vous allez nous proposer une nouvelle série de reportages consacrée à la bataille du GSO en Alsace. Et en voici d'ailleurs un avant-goût.
Oui, c'est parce qu'après des années de mobilisation, de recours, après une ZAD et même une grève de la faim contre ce barrage, contre ce chantier qui est construit par Vinci et qui trace sa route en ce moment depuis un an et demi dans la forêt qui a commencé à bétonner des terres agricoles, tout ça a laissé des traces aussi chez les habitants, à commencer pour une des doyennes du village de Kolbsheim, Germaine.
Je m'appelle Germaine Jacqueline. Germaine, ça me convient.
Et alors, vous êtes la révolutionnaire du village, si j'ai bien compris.
Oui, 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 je suis une zadiste, oui. Pour défendre notre terre, notre belle Alsace qu'on est en train de détruire complètement. Parce que les autoroutes passent partout maintenant.
Vous avez pris goût à la castagne.
Ah, oui, écolo radical, oui. Le plus grand plaisir, c'est quand je vais aux manifestations. Je me sens bien avec les jeunes.
Vous n'avez pas peur des fois?
Non, moi j'étais gazée, hein. Je sais ce que c'est, mais bon, ça ne me fait pas peur. Je suis une révolutionnaire à fond maintenant.
Ah oui, Germaine, elle y va quand même.
Oui, hein. Vous allez voir ça.
Voilà, feuilleton autour du GCO, évidemment le grand contournement ouest de Strasbourg. On en parle donc dès lundi avec vous et vos reportages, Guy Van Til. Merci beaucoup.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et nous allons parler d'un jeu collaboratif pour observer les oiseaux avec vous. François Chiron, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur et enseignant à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. C'est à l'AgroParisTech. Et vous êtes co-responsable avec Carmen Bessa-Gomez de BirdLab. C'est un jeu collaboratif donc pour observer les oiseaux à la mangeoire en collaboration avec Viginature du Muséum National d'Histoire Naturelle. Racontez-nous ce que c'est exactement BirdLab. Moi, je l'ai téléchargé en application sur mon portable. Racontez aux auditeurs de quoi il s'agit exactement.
Alors BirdLab, c'est la première expérience de science participative sur smartphone et tablette et qui associe jeu et observation des oiseaux. Donc c'est clairement une application de la famille des Serious Games qui permet de collecter des informations sur le comportement de 27 espèces d'oiseaux communs aux mangeoires, tout en permettant aux joueurs d'apprendre à les reconnaître de façon très simple et ludique et de découvrir leur comportement.
Donc c'est bien parce qu'on peut faire plein de choses à la fois. On peut non seulement s'amuser, apprendre des choses sur les oiseaux et en plus aider les scientifiques. C'est ça l'objectif, hein, je crois.
Oui, l'objectif scientifique, c'est effectivement de comprendre la biodiversité, mais aussi les comportements. Et c'est un jeu qui s'applique à tout le monde. C'est un outil très ludique qui peut être pratiqué à tout âge, sans modération. Voilà.
Et alors François Chiron, une fois qu'on a installé l'application, vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse? On voit un oiseau. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a le téléphone entre les mains et l'oiseau dans le viseur, a priori?
Et dans l'oreille.
Ouais. Alors c'est très simple, en fait vous installez deux mangeoires de type plateau, c'est-à-dire des mangeoires de la taille d'une feuille A4, dans votre jardin, sur votre balcon, et vous allez alimenter en graines de tournesol ces mangeoires dont les oiseaux sont très friands. Mmh. Alors ceux-ci vont repérer cette nouvelle source de nourriture, arriver à la mangeoire et le jeu peut alors commencer. Celui-ci consiste à reproduire en temps réel l'arrivée et le départ des oiseaux pendant 5 minutes en faisant glisser leur silhouette sur les mangeoires fictives. ils sont représentés sur votre smartphone. Et pouvez faire autant de sessions que vous le souhaitez.
Mais François, qu'est-ce qu'on apprend finalement en nourrissant les oiseaux comme ça dans son jardin? Et puisque là, c'est vraiment autour de la mangeoire. Hein.
Ben, le participant va apprendre effectivement à découvrir les oiseaux, leurs différentes formes, à savoir les identifier, et petit à petit à essayer de comprendre leur comportement, savoir qu'est-ce qui les influence sur cette mangeoire et au-delà. Et d'un point de vue scientifique, alors nous, on est très intéressés dans notre laboratoire par les comportements, ce qui ne peut pas être fait à cette échelle-là sans Bird Lab.
Ouais.
Et par exemple, on a récemment travaillé sur l'effet de l'arrivée d'une nouvelle espèce en France, la perruche à collier, sur le comportement de petits passereaux, de pinsons, de rouge-gorge, de mésanges, comme je pense la plupart de vos auditeurs connaissent. Et on a comparé cet effet à celui de deux grosses espèces locales, la pie et la tourterelle. Et ce résultat montre contre toute attente que c'est pas la perruche, mais la tourterelle qui réduit le plus la diversité des autres petites espèces. Donc ce résultat n'aurait jamais été possible sans Bird Lab et tout le réseau de milliers d'observateurs de ce programme de sciences participatives.
Donc grâce aux gamers, vous avez toutes ces infos scientifiques du coup.
Exactement, on a une somme de données maintenant sur plus de 600 000 oiseaux. À partir des 5 dernières années, plus de 2000 observateurs donc, qui participent à Bird Lab. Donc, ça nous donne finalement une image assez précise de là où sont les oiseaux, comment ils s'organisent pour se partager la nourriture. Et on va même pouvoir aller plus loin maintenant.
Et quand on habite dans un gros centre-ville, est-ce qu'on peut avoir des espèces un peu inattendues? Ou en gros, est-ce qu'il faut qu'on s'attende à avoir quasiment que des pigeons qui viennent manger nos graines de tournesol?
Non, pas du tout. Effectivement, on est souvent très surpris par le nombre d'espèces qu'on peut trouver, même en cœur de ville. Donc, Bird Lab vous propose d'observer 27 espèces d'oiseaux très communs. Donc, c'est par exemple des rouges-gorges, des mésanges, des pinsons, des verdiers, etc. Donc, ce sont des espèces que vous pouvez aussi avoir en ville et aussi observer des espèces beaucoup plus occasionnelles pendant l'hiver, notamment comme le gros bec, qui est une espèce nordique venant du nord et qui fuit parfois les hivers un peu difficiles.
Et François, si on n'est pas bon en oiseaux, qu'on a bien du mal à distinguer justement un pigeon d'un passereau, est-ce qu'on peut quand même vous aider? Bon là c'est un peu gros, mais quand même.
Non, je vous rassure, c'est effectivement tout à fait possible, car il n'est pas nécessaire de savoir identifier les espèces pour participer à Bird Lab. En fait, il faut juste savoir les observer. Et le joueur, d'autre part, a accès sur l'application à des quiz de reconnaissance des oiseaux, des fiches d'espèces qui vont très vite l'amener à reconnaître les espèces. Et au fur et à mesure des sessions d'observation, vous vous améliorez dans l'identification et dans la compréhension du comportement. Donc c'est très évolutif.
Et est-ce que ça vient pas quelque part perturber leur fonctionnement si on leur donne à manger, parce qu'ils vont tous répliquer? Est-ce qu'il faut les nourrir en fait, les oiseaux, surtout en hiver?
Oui, c'est une question effectivement qu'on se pose, mais globalement, on constate que c'est incontestablement une bonne idée. Déjà pour se faire plaisir, en observant les oiseaux sans trop d'efforts, et pour leur bien-être. Une publication là, récente parue dans la revue Nature en Angleterre montre que le nourrissage qui est assez massif au Royaume-Uni permet d'augmenter les populations d'au moins une trentaine d'espèces au cours des 40 dernières années. Donc ça a un réel avantage. Alors après, effectivement, comme certains oiseaux vont passer leur hiver à la mangeoire, il y a tout de même quelques précautions à prendre. La première, c'est nettoyer les mangeoires régulièrement pour éviter la transmission de pathogènes entre oiseaux. C'est d'éviter de faire des oiseaux le casse-croûte de vos chats ou de ceux de votre voisin. Et après le 31 mars, donc date de fin du programme, c'est de ranger vos mangeoires parce qu'elles seront plus utiles pour les oiseaux.
Merci en tout cas François pour toutes ces infos. Bird Lab, donc c'est le nom de cette application aussi.
Et c'est à partir de demain qu'on peut l'utiliser.
Exactement, et on peut aller sur le site de la Terre au Carré pour avoir toutes les infos et le lien direct. Merci à vous pour toutes ces informations. Allez, des oiseaux, nous allons passer aux poissons, aux larves de poissons dans un instant, à l'occasion d'une étude qui vient d'être publiée et qui montre qu'il y a beaucoup de microplastiques dans les larves de poissons à Hawaï en particulier. Ce sera juste après Anderson .Paak. It's the rap singer, the hook cast, real life convict, son of a gas. Heart made of stone. Why you pull so cold? 'Cause my girl up and gone. She'll be back in the morning. Gonna mama, take your trauma. Seems like I can't live without her. I'm aching more. 'Cause my heart is broke. 'Cause my love went wrong. Yeah, another bag and she left me in the mold. Water bubble over stove.
As I was dreaming of a bed, and I woke, it was starting to snow. And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
Hey.
Oh, ça vous avez aimé,
Camille.
Mathieu, hein.
C'est pas mal, ça. Anderson Paak avec Ned Dogg.
Je vous ai filmé en train de danser.
What can we do?
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Direction Perpignan, on nous attend Jean-François Guiglione en duplex des studios de France Bleu Roussillon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean-François Guiglione, vous êtes éco-toxicologue au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnols-sur-Mer et responsable du groupement de recherche sur les polymères et l'océan. Alors cette semaine, on voulait vous en parler. Une équipe internationale a publié dans la revue PNAS une étude sur la découverte donc de quantités importantes de microplastiques présentes dans des larves de poissons pêchées près d'Hawaï. Vos collègues, Jean-François Guiglione, ont retrouvé du plastique dans 9% des larves de poissons qu'ils ont pêchées. C'est considérable, non ?
C'est considérable. Encore une fois, l'effet des plastiques est avéré sur plein d'animaux différents. Là, ici, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on travaille sur les premiers stades de vie des poissons, les bébés poissons, en fait, ces premiers stades de vie vont se passer en surface. Et c'est là où il y a beaucoup de nourriture. Donc, ça dure quelques semaines de développement intense où c'est un peu l'étape critique pour leur survie. Et malheureusement, en fait, en surface aussi, on sait qu'on a énormément de microplastiques qui vont être ingérés, en fait, par ces larves. Et malheureusement, ça va réduire drastiquement leur survie.
Ça, c'est ce qui fait l'intérêt de l'étude, justement, c'est d'avoir observé les premiers stades de la vie des poissons.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi une des premières études qui montre l'effet des microplastiques en milieu naturel. Souvent, les travaux se font en laboratoire. Là, on est vraiment dans le milieu naturel. Et c'est la première fois que ça a été observé sur des stades larvaires. Donc, normalement, on voit les effets sur les adultes d'habitude.
Jean-François Guiglione, comment une larve de poisson peut absorber, ingérer des microplastiques ?
Eh bien, en fait, les microplastiques, on sait que c'est tout ce qui est inférieur à 5 mm. Donc, ça va comprendre des tout petits morceaux de plastique. Et là, ils ont vu, en fait, effectivement, qu'il y a à peu près 9% de la population de larves qui ingéraient des plastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les espèces qui ont été concernées. En fait, il y a 7 familles sur 8 qui ont ingéré du plastique dans cette zone. Et notamment, en fait, on a des bébés espadons, des maïs et des dorades coryphènes là-bas. Donc ça, c'est des espèces qui sont commercialisées, consommées, des balistes, des sergents majeurs. En fait, toutes les familles en fait de larves qui ont été observées comme ingérant des plastiques, en fait, on les ingère nous aussi. Ils sont consommés en fait là-bas.
Qu'est-ce qui fait que finalement il n'y en ait pas plus de larves de poissons qui puissent avoir la présence de ces microplastiques ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont épargnées par rapport aux autres ?
Les autres qui sont épargnés, on ne sait pas trop pourquoi. En réalité, après, c'est juste une question de rencontre avec des microplastiques. Heureusement, en fait, les microplastiques dans ces zones-là, il y a déjà beaucoup de plastique parce qu'ils sont pas très loin du GIR du 7e continent. Mais en fait, après, c'est des probabilités de rencontre, simplement.
Le 7e continent, c'est ce fameux continent de plastique qu'on a décrit comme ça, en tous les cas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme, mais...
Ouais, on n'aime pas trop utiliser ce terme de continent de plastique parce que la réalité, elle est complètement différente. En fait, on n'est pas sur un continent où on peut marcher. Mais par contre, en fait, on a énormément de microplastiques qui sont dans ces zones. Et y a des telles concentrations de microplastiques que, justement, les larves, les poissons... confondent leur nourriture naturelle avec ces microplastiques, ils les ingèrent et ça a des effets délétères.
Alors justement, les effets, c'est quoi? Est-ce que ça les fait mourir? Est-ce que derrière, dans la chaîne alimentaire, ça peut nous avoir un impact sur notre santé?
Alors, vaste question. Ce qui se passe déjà au niveau des poissons, ce qu'on sait, c'est que, imaginez que vous mangez un chewing-gum, ça va pas vous faire grand-chose. Par contre, on sait, par exemple, il y a des chiffres sur la Méditerranée ou dans les gyres du Pacifique Nord, par exemple, on sait qu'on a à peu près en concentration autant de plastique que de zooplancton, qui est la nourriture des poissons. Donc, ça veut dire que pour le poisson, il a à peu près la moitié de son assiette qui est remplie de chewing-gum. Là, ça commence à faire pas mal. Mm-hmm. Et donc, du coup, les effets qu'on va avoir, c'est ça bloque le tube digestif. Du coup, les poissons n'arrivent plus se nourrir, ils meurent en fait de malnutrition. Ça va provoquer en fait des ralentissements de croissance, ils n'en meurent pas, ça réduit leur capacité de mouvement, ils ont une reproduction qui est limitée. Donc tout ça en fait, c'est plein d'effets qui ont été déjà observés. C'est observé sur les poissons, mais c'est observé à tous les échelons de la chaîne alimentaire. Ça a été observé en laboratoire. Là, en fait, l'origine d'été de cette étude, c'est que c'est vraiment observé en milieu naturel.
Ouais. Et c'est compliqué de pouvoir mener des études dans ces conditions-là, justement?
C'est pas forcément facile. En fait, il faut déjà se trouver dans une zone où il y a pas mal de concentration de microplastiques pour y voir les effets. Mmh. Et puis les effets, en plus, ils sont pas forcément tout de suite évidents. En fait, les animaux qui sont morts, on va pas les récupérer. Donc on a des effets qui sont variables. Et puis en plus de trouver la cause de la mort, c'est pas forcément facile aussi parce que les plastiques ils sont remplis d'additifs, c'est-à-dire tous ces produits chimiques qu'on met à l'intérieur du plastique pour qu'il soit plus costaud, pour le stabiliser, pour qu'il ne s'enflamme pas, etc. On sait qu'on a beaucoup de perturbateurs endocriniens en fait, dans ces plastiques qui vont eux-mêmes réguler la croissance, le développement, la sexualité, le métabolisme. Et tout ça, en fait, combiné, ce n'est pas forcément facile de trouver la source des perturbations en fait, qui sont dues à ces microplastiques.
Ouais. Est-ce qu'on a aujourd'hui des études qui montrent les effets vraiment de cette pollution sur l'humain? Parce que là, on étudie le poisson, mais chez les bipèdes que nous sommes, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de ces plastiques?
Alors je vous rassure, on a déjà montré en fait que ça pouvait provoquer la mort de plein d'animaux. On cite 14 000 mammifères marins par an qui meurent de ces plastiques, 1,4 million d'oiseaux marins qui meurent par an. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui a été démontré comme étant mort de l'ingestion de plastique. On sait qu'on ingère des plastiques et comme sur les animaux, on sait qu'il y a un effet, on imagine que ça va avoir un effet sur l'homme, mais il n'a jamais été avéré. Aujourd'hui, on sait qu'on en ingère beaucoup parce que dans un plat de moule, on sait qu'il y a 300 particules par portion de moule. On sait qu'on a 7 particules dans l'estomac de chaque crevette. Que dans nos bouteilles aussi, on sait qu'on en boit, dans tous nos produits emballés, sur-emballés, on sait que finalement on consomme des plastiques. L'effet sur l'homme aujourd'hui,
il y a quand même la question des perturbateurs endocriniens, Jean-François Guiguillon, qui est bien connu là pour le coup. Hein.
Oui, évidemment. En fait, on sait que ça relargue des perturbateurs endocriniens, mais la complexité sur l'homme, c'est que pas comme ce qu'on peut faire sur les animaux, même s'ils sont assez régulés. Hein, évidemment, tout ce qu'on fait sur les animaux, même marins, on peut pas faire d'études vraiment sur l'homme. Et la complexité de l'homme, en fait, c'est qu'il est soumis à plein d'effets différents. Les perturbateurs endocriniens, ils viennent pas seulement du plastique, ils peuvent venir aussi, de plein d'autres choses. Puis on a les pesticides. Enfin bon. Donc c'est pas forcément facile de tracer la raison pour laquelle il va se développer une maladie qui sera liée au plastique. Aujourd'hui, ça n'a jamais été démontré.
Il y a des solutions qui sont proposées. Il y a des gens qui disent vouloir nettoyer les océans. Est-ce que ça peut être efficace, ça, Jean-François Guiguillon?
Alors, sur cette question des solutions, globalement, en fait, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il faut faire du préventif et pas du curatif. C'est-à-dire qu'aller nettoyer les océans, c'est évident que ça ne marche pas. Simplement parce qu'il y a énormément de microplastiques qu'on ne peut pas récupérer, qui sont partout sur tous les océans. On ne peut pas aller nettoyer les grands gyres. Les moyens qui sont développés pour faire ça sont complètement... c'est complètement illusoire d'aller les nettoyer. Il y a des calculs qui ont été faits entre le moment où je commence à nettoyer et le moment où j'ai fini. Il y a déjà 400 fois plus de plastique qui est arrivé arriver sur cette zone. Donc les solutions, elles sont pas là, elles sont forcément à terre. Elles sont dans les mains de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que c'est dans les mains des industriels, du gouvernement et de la recherche qui doivent travailler ensemble pour améliorer les produits, les rendre plus facilement recyclables. Mais c'est aussi dans les mains du consommateur. Et là, mon message généralement, c'est de dire il faut positiver avec ça au lieu de prendre ça comme quelque chose de négatif. Je suis un méchant pollueur. La réalité, en fait, c'est qu'il faut que le consommateur fasse des actions positives qui lui fassent du bien. Et il y a plein de possibilités, en fait, dans le choix du produit, dans faire la différence entre ce qui est nécessaire et superflu pour diminuer notre usage du plastique. Et encore une fois, je dis pas que le plastique en entier, il est mauvais. Le plastique, en fait, c'est... Nous, on est des donneurs d'alerte puisque c'est ce qu'on voit en mer. C'est essentiellement l'emballage et les plastiques à usage unique. Aujourd'hui, ça représente 40% de la production mondiale du plastique. On peut déjà enlever tous ces emballages qui emballent trop de produits et on aura déjà bien avancé en fait sur la lutte contre le plastique.
Merci en tout cas Jean-François Guiglione pour ce commentaire sur cette publication sortie donc cette semaine. Vous êtes éco-toxicologue donc à Bagnouls-sur-Mer. Merci beaucoup d'être passé par la Terre au Carré pour nous en parler. Bon week-end Camille.
Bon week-end à lundi.
Vous savez que lundi on accueille votre fantasme d'adolescente.
Arrêtez. C'est Félix dans la Boom 2.
Voilà, vous serez qui c'est, voilà, pour nous parler de coraux. Il y a un rapport évidemment avec la nature. Allez, bon week-end à tous.